And I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Je vous aime, vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation.
Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle émission du 12e homme. Au programme du jour, on va aller à Lyon et on parlera d'un sujet insolite, les couleurs des clubs de Ligue 1. Ensuite, nos traditionnels top flops. Et en fin d'émission, on parlera du magnifique bilan du PSG en Ligue des Champions sous l'ère QSI. Et on filera ensuite en Angleterre. Tout d'abord, les résultats du week-end dernier en Ligue 1. Lille et Lyon font match nul 3-3 au terme d'un match fou. Auxerre et Rennes se quittent sur un score vierge. Le PSG est sauvé par Mbappé en toute fin de match et gagne 2 buts à 1 à Brest. Lens atomise Clermont 4 buts à 0. Montpellier bat Ajaccio 1-0. Angers perd encore une nouvelle fois à domicile face à Toulouse 2 buts à 1. Nantes et Nice se quittent sur un score nul 2 buts à 2. Lorient gagne à 3. Non, gagne contre 3, pardon, 2-0. Monaco perd à domicile face à Reims, 1 but à 0. Et Marseille se fait rejoindre par Strasbourg en toute fin de match, 2-2. Petit point classement maintenant, le PSG seul en tête avec 10 points d'avance sur l'OM. Lens revient un peu sur Marseille à 2 points derrière. Monaco cale et reste 4e. Derrière, Rennes et Lille font match nul. Tandis que la 7e place est partagée entre Nice, Reims et Lorient. La course à l'Europe est encore très 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 ouverte. Derrière, Angers, toujours bon dernier, qui a clairement 9 orteils en Ligue 2. 3, 19e, Ajaccio, 18e, et 3 équipes un peu au-dessus, à la 17e place, Auxerre, Brest et Strasbourg. Le maintien n'est assuré pour aucune de ces équipes.
Bedretti a tout commandé sur le terrain, mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites allusion? On va s'en occuper.
Et on ouvre notre page Ligue 1 avec Thomas. Thomas, tu veux nous parler de l'Olympique Lyonnais sous Laurent Blanc. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur cet Olympique Lyonnais version Laurent Blanc?
Ouais, je voulais parler de Lyon parce que quand Laurent Blanc est arrivé après Peter Bosch, il avait des objectifs assez élevés quand même, qui étaient déjà de qualifier le club en Coupe d'Europe. Chose qui va peut-être arriver ou pas, on verra bien. Mais son arrivée juste avant la Coupe du Monde, dans un contexte un peu délicat, Lyon était sur une saison et demie très mauvaise avec l'arrivée de Peter Bosch, qui a jamais vraiment su imposer son style, avec un vestiaire lyonnais qui est toujours très compliqué à gérer avec tous ces jeunes et un peu ce clan lyonnais, Lopez, Tolisso, tout ça. Et son constat quand il arriva à Laurent Blanc, c'est qu'il a dit: la préparation physique, elle a été très mauvaise, les joueurs sont pas prêts à jouer 90 minutes, donc moi, pendant la Coupe du Monde, pendant la trêve, vu qu'il n'y a pas grand monde qui va partir, je vais vous faire une vraie préparation physique d'un grand entraîneur. Bon, je pense que la préparation, c'est peut-être pas très bien placé, parce que Lyon, c'est toujours pareil. Il voulait faire un jeu, un beau jeu. Il avait dit, en arrivant dans un premier temps, jusqu'à la trêve, il faut prendre des points, peu importe la manière. Mais par contre, vu que j'ai la trêve, on va pouvoir travailler les principes, tout ça, et en revenant, on va faire du beau jeu. Bon, c'est pas très très concluant. Il a un bilan depuis le retour de la Coupe du Monde. Hein, je compte pas les matchs qu'il a fait avant la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas pu prendre l'équipe en main. 8 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 10e, 40 points, à 7 points de l'Europe. Bon, c'est un bilan assez mitigé d'ailleurs, comme les résultats. Hein, ils font victoire contre Lens dimanche il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et le week-end d'après, ils perdent à Auxerre. Donc on voit que c'est très très irrégulier, mais c'est irrégulier Lyon, c'est depuis 5-6 ans, c'est hyper régulier, t'as l'impression qu'ils sont super motivés quand ils jouent contre les gros, et puis quand ils jouent contre les petits, bon, oh, plus de motivation, oh, on fait des petits matchs, on perd, on fait match nul, on gagne, mais c'est dur, donc très compliqué. En plus, le mercato d'hiver là a pas été non plus excellent, t'as Sarr qui arrive des Pays-Bas, bon, 9 ou 8 millions d'euros pour un inconnu, en plus il mange un peu le banc, donc c'est pas fou. Jeffinho, le Neymar de Lyon, qui arrive, il a marqué un but en Coupe de France, mais bon, il s'est claqué sur la célébration quoi, en faisant un salto quoi. Donc c'est pas extrêmement bien pour la confiance. L'espoir de Lyon, pour la fin de saison, comme je dis, c'est la Coupe d'Europe. Enfin, c'est oui,
d'arriver
en Coupe d'Europe. Par quel moyen ? Par le championnat ? Je pense que c'est totalement mort. Hein. Et il reste donc la Coupe de France pour accrocher la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que la saison de Lyon repose uniquement sur le parcours en Coupe de France. Et c'est très risqué parce que déjà, ils vont les jouer à Nantes. Nantes, ça va pas être facile de les gagner là-bas. Et puis, une finale de Coupe de France, de toute façon, c'est 50-50. De toute façon, vu les équipes qui restent, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui se détache. Lyon, par l'effectif, est la meilleure, mais derrière, c'est assez compliqué. Donc, le constat, c'est que il y a trop de jeunes dans l'équipe. Déjà, pour jouer quelque chose, il y a beaucoup trop de jeunes derrière. Quand on voit que tu mets Barcola devant, t'as Cherki, c'est un bon joueur, mais il n'est pas encore prêt pour être titulaire dans un club de Ligue 1. Il est trop fou, en fait. Il n'arrive pas à poser le jeu. Quand il faut poser le jeu, il part trop devant, il fait trop de dribbles, il perd beaucoup de ballons. Donc, Barcola, Cherki, Cacré, il est de pire en pire, j'ai l'impression. Il a été bon contre City dans le Final Four, la Coupe d'Europe, où ils éliminent City. Après, t'as Loukeba, t'as Malo Gusto, c'était de très bons joueurs, mais c'est beaucoup trop jeune pour espérer quelque chose en Ligue 1. Ensuite, t'as des joueurs vieux, des joueurs d'expérience, Lacazette, Tolisso qui est blessé un match sur 3, Lacazette qui apporte pas grand chose, on espérait beaucoup mieux, même s'il tient l'équipe, il tient l'équipe à lui tout seul, presque on peut le dire. T'as Lovren derrière, qui est pas mauvais d'ailleurs, qui est pas mal, mais voir si elle va tenir sur la durée. Lopez au goal, qui fait pas sa meilleure saison, on va dire. Et t'as des joueurs qui sont là, mais qui sont plus concernés. Aouar, il est là, mais bon, on sait qu'il sera plus l'année prochaine, il s'en fout un peu. Dembélé, pareil, Moussa Dembélé, qui est en attaque, en fait, t'as l'impression qu'en fait, il a pas envie de marquer. Il est là, comme ça, oui. Pareil, le match en Coupe de France contre Grenoble, je sais pas si vous vous rappelez, où Cherki fait la passe en profondeur à Dembélé, que Dembélé, même pas, il va la chercher. Et que Cherki, il est hyper énervé, ça prouve bien le manque d'envie. Moi, je dis que Lyon n'a pas le droit à l'erreur l'année prochaine. Cette année, bon, c'est mort. Même s'ils vont pas en Coupe d'Europe, j'ai envie de vous dire, c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave, mais c'est pas non plus une catastrophe. C'est l'année prochaine, il va falloir vraiment qu'ils reconstruisent quelque chose de sain. Mais j'ai des doutes avec leur achat, avec Textor. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir vendu. J'ai peur que ça fasse un peu le Bordeaux à Lyon, c'est-à-dire problème économique. En plus, il a fait des prêts partout pour prendre l'argent. Il n'avait pas assez d'argent. Leur achat a été reculé de 2 mois. C'est un peu bizarre. Donc, bonne chance à Laurent Blanc. Mais j'ai confiance en lui. Mais il va falloir qu'il fasse vite.
Ouais, toi, j'entends mon squad de Lyon. Est-ce que, ouais, comme dit Thomas, est-ce qu'ils seront absolument pas européens si ce n'est par une hypothétique victoire en Coupe de France?
Il y a que cette solution. Je pense pas qu'ils seront européens par le championnat. En tout cas, moi j'étais confiant. Enfin, j'étais content que Laurent Blanc vienne sur un banc de Ligue 1. Je pensais qu'il pouvait amener quelque chose, mais c'est comme les dernières années. Ils sont très bons contre le PSG. Ils font des bons trucs. Même en Ligue des Champions, ils avaient battu City 2 fois. Et ils avaient fait un gros. Voilà, ils sont très bons contre les gros et après, pas du tout contre les petits. On l'a vu, Lens, et après, ils perdent contre Auxerre. Voilà. Après, moi, je pense Lyon, ils ont toujours ce petit truc des jeunes. Et je regardais là, il y a un très bon joueur que j'aime beaucoup, c'est Le Penant. J'aime bien le joueur. Je pense qu'il peut amener quelque chose, un peu de folie. Et l'année prochaine, je pense qu'on peut compter sur lui et il faut préparer l'année prochaine pour Lyon. Et voilà, essayer d'aller attraper cette Ligue des Champions qui leur manque tant.
À Lyon?
Pour Lyon,
non, jouer en Ligue des Champions, il veut dire.
Ah, jouer, ah oui, parce
oui,
que...
Jouer.
Non, non, à la Ligue des Champions.
Non, je pense non.
Peut-être que Ola s'en rêve.
Déjà, Ligue Europa, ça jouerait pas mal.
Oui, Ligue Europa,
c'est plus
ouais,
à leur
déjà...
niveau, à mon avis.
La gagner?
Non, la jouer.
Ouais, la jouer, ouais.
Sortir des poules, déjà. Parce que beaucoup de clubs français ne sortent pas des poules Ligue Europa.
C'est vrai. Bon courage à Lyon, en tout cas, on verra s'ils arrivent à gagner cette Coupe de France très ouverte, comme l'a dit Thomas. Jean, tu voulais nous parler d'un sujet énigmatique, les couleurs des clubs de Ligue 1.
Voilà, un petit sujet insolite, parce que c'est vrai que ce week-end, je n'ai pas été très pro, en effet, je m'excuse, j'ai préféré regarder l'équipe de France de rugby battre les Anglais. J'ai regardé un peu du coin de l'œil. J'ai préféré regarder ce match qu'un Auxerre-Nantes, Auxerre-Rennes, qui devait être très alléchant apparemment. J'ai préféré Olivon à Mbanyang. Excusez-moi. Une soirée pour fêter la victoire des Bleus m'a fait oublier un succulent Paris-Brest 2-1. Et les matchs de 15h, j'étais en train de récupérer de cette soirée et me remettre des 2 mètres de Flamand et des accélérations de Ramos. Donc excusez-moi, cette chronique ne sera pas aussi parfaite et aussi précise en tactique. J'ai préféré aujourd'hui de voir les couleurs des clubs de Ligue 1, comme Thomas la semaine dernière qui nous avait parlé des stades. Moi je vais parler de ce qui forge l'identité aussi du club, d'où viennent les couleurs de notre chère Ligue 1. Si des équipes comme Marseille abordent des clubs du blason de leur ville, bleu et blanc pour l'OM, le bleu et rouge du PSG, d'autres équipes ont une histoire un peu plus particulière, notamment c'est le cas de Nantes. En effet, les joueurs jaune et vert, les couleurs jaune et verte n'ont rien à voir avec le blason de la ville, qui est lui rouge et vert. En effet, les couleurs jaunes sont une décision d'un des dirigeants, des fondateurs, Jean Le Guillou. Celui-ci est par ailleurs propriétaire d'une écurie et l'un de ses chevaux fétiches court en jaune et vert. Il décide donc que le club abordera dès à présent les couleurs des Canaries. Alors son nom, maintenant le surnom, comme des clubs comme Norwich qui sont appelés les Canaries. Autre anecdote pour le club du RC Lens, les Sang et Or n'ont pas toujours joué en jaune et rouge. Ils jouaient même en vert et noir. C'est d'ailleurs le troisième maillot, ou maillot saison, extérieur ouais. de Lens. Mais sont alors des dirigeants du club qui, en 1923, vont leur changer de couleur. Ils vont tomber sur une église en ruine qui retiendra leur attention. Cette église a été bâtie par les Espagnols durant l'occupation du XVIIe siècle, qui vont avoir une révélation. Désormais, le RC Lens rejouera en jaune et rouge les couleurs de l'Espagne. Il y a à peu près la même signification pour l'OGC Nice, même si on pense que c'est une légende. En effet, la légende dit que le club niçois ait participé en 1910 à un tournoi à Milan, mais qu'ils avaient oublié leur jeu de maillot. Et le Milan AC lui aurait prêté leur maillot pour le tournoi. Et ils ont remporté le tournoi. Donc ils ont décidé que le noir et rouge seront leurs couleurs. Bon, l'histoire ne serait pas totalement oui. vraie. Elle est beaucoup plus traditionnelle, le club aurait fusionné avec le club Gallia FC qui portait déjà ses couleurs avant. Et une histoire aussi marrante pour l'Orient, ses couleurs orange et noir sont celles du navire, le premier construit par les chantiers navals de Fouidec en 1671. Et d'autres sources ajoutent que le club avait choisi ses couleurs car elles étaient celles d'une robe remarquable et remarquablement portée par une jeune femme au nom de Charlotte Cuissard à l'occasion de la création du club. La robe était tango et noir. Donc ils ont arboré ces couleurs. Et le dernier club, même s'il est aujourd'hui en Ligue 2, je voulais tout de même parler des couleurs de Saint-Étienne. On se souvient leur slogan, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. Mais le club de Saint-Étienne n'a pas toujours joué en vert. En effet, le club doit ses couleurs à l'enseigne Casino. Avant, la SSE avait fondé en tant que la partie sportive de l'amicale des employés de la société des magasins Casino. La couleur était verte et donc ils ont joué en vert. Et le fondateur de Casino n'est autre que Geoffroy Guichard, qui a donné son nom au stade, au Chaudron, comme on l'appelle. Voilà des petites anecdotes pour comprendre comment on a forgé l'identité des clubs.
Très intéressant comme chronique, ça va. Thomas, Toulouse, pourquoi ils jouent en violet?
Toulouse, ils jouent en violet. Bonne question.
Pour la ville de Toulouse, je pense.
Oui, c'est par rapport aux couleurs de la ville rose, tout ça. Après, Toulouse, c'est une histoire particulière parce qu'il y a eu un ancien club qui a été supprimé, un nouveau club, sont à l'origine du club du Red Star à Paris. C'est Toulouse qui est à l'origine de ce club aussi. Ils ont dû déménager par rapport. Parce que Red Star c'est un club communiste à la base, donc c'est pour ça, avec l'étoile rouge d'ailleurs. Bref, je trouve ça très intéressant l'identité des clubs, et je trouve qu'elle est de plus en plus bafouée justement par certains clubs.
Ouais.
L'identité des clubs sur les maillots, notamment le Paris Saint-Germain, qui vient changer le logo déjà à l'arrivée des Qataris, parce que le logo avant du Paris Saint-Germain il y avait un berceau sous la Tour Eiffel, et là ils ont enlevé le berceau, ils ont laissé que la fleur de lys. Pareil pour les maillots, les troisièmes maillots du Paris Saint-Germain. Depuis quelques années, c'est n'importe quoi.
Ouais. Et même des fois, c'est les clubs à rayures.
Ouais.
Il y a des variations de taille de rayures. Ouais, perds à chaque fois les rayures initiales en fait.
Ouais, mais le troisième maillot aussi, c'est n'importe quoi.
Le troisième maillot, c'est n'importe quoi.
Mais même, il y a des. De toute façon, maintenant, il y a 4-5 Paris, ils ont quoi 5 maillots, 6 maillots.
Ouais, ouais. Ils ont le maillot à domicile, le maillot extérieur, le troisième maillot, le maillot de Jordan et le maillot pour le nouvel an chinois, le maillot où les noms sont marqués en chinois derrière. Donc voilà. Oui, là quand je regarde, j'ai les maillots devant moi de cette année, un peu. Et il y a des maillots qui sont restés très fidèles à leur identité. Je pense au maillot de Monaco.
Mm.
La bande, la fameuse, le maillot de Monaco, en fait, tu peux acheter celui de 2004, oui. Tu auras le même jusqu'à 2024.
Il n'a pas bougé. Lui.
Il n'a pas bougé. Tu as le maillot de Marseille. Alors, le maillot de Marseille, c'est assez particulier parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de bleu sur le maillot. Là, le bleu, il est un peu effacé, je trouve. Maillot de Nantes, jaune, récent. T'as le maillot de Rennes, toujours en rouge et noir. C'est des bonnes couleurs. Il y a un truc que je voulais dire aussi, c'était le maillot de Toulouse cette année. Normalement, Toulouse, c'est blanc et violet. C'est on est toujours habitué à la blanc. Ça fait depuis je sais pas combien d'années qu'ils mettent plus de maillots blancs et violets. Soit c'est tout violet, soit c'est tout blanc. Là, cette année, c'est tout blanc avec des rayures de 0,4 mm violet. Donc, je trouve ça un peu dommage de pas mettre le maillot qui représente la ville depuis la création. Donc, voilà, tout ce que je voulais dire sur les identités clubs. Mais c'est vrai que ça fait lien avec les stades. Parce que, pareil, les clubs qui vont changer de stade. Comme Paris, on en parle que le propriétaire du PSG va leur acheter le Stade de France. Pareil, là, ça couperait l'identité du club. Parce que tu vas dans un stade qui n'a aucune histoire par rapport au club. C'est vraiment dommage de quitter le Parc des Princes. Voilà.
Ouais, voilà, donc très intéressant cette histoire des maillots. On passe au top flop. Jean, quels sont tes top flops de ce week-end de Ligue 1, même si... Je l'ai pas trop vu.
Non, oui. Non, j'ai vu un match. Voilà. Le top pour moi, c'est Aoulou de Strasbourg, avec qui permet à Strasbourg de garder un peu d'espoir. Et mon flop, ben, ça va être Marseille, parce que tu mènes 2-0, tu te fais pas remonter même à 10 en 2 minutes, 2-2 contre le 17e du championnat ou 16e, je sais plus. Mais voilà, je top et flop dans le même match.
Ben moi, mon top, c'était comme toi, je te copie Jean-Eda Oulou pour son magnifique doublé. Et mon flop, par contre, c'était Monaco, donc qui depuis leur élimination en Europa League face à Leverkusen, n'ont pas gagné. Et là, ça commence à faire beaucoup pour Monaco. Défaite 1-0 face à Reims, voilà, sur une superbe dynamique, on le répète tous les week-ends maintenant. Mais attention à Monaco, on en parlait l'an dernier, la semaine dernière de la course à l'Europe, où on voyait plutôt Monaco finir 3e. Bah là, ce Monaco-là, pas forcément.
Ouais.
Thomas, t'es top flop ?
En top, j'ai mis Lille, le match de Lille, la seconde mi-temps de Lille. Alors, on fait match nul, 3-3, c'est un match spectaculaire, 6 buts en deuxième mi-temps. C'était un bon match de Lille. Franchement, Lille, ils ont maîtrisé le match presque de A à Z, de A à V. Il y a les dernières lettres qui ont été un peu mangées par Lyon. Mais sinon, Cabella fait un très gros match. Ça fait longtemps que j'avais pas vu Cabella faire un match aussi bon. David, bon, triplé, 2 pénaltys, certes. Mais bon, les pénaltys, il faut les obtenir aussi. Mais très bon match. Il aurait pu mettre un quadruplé, peut-être, s'il n'avait pas été sorti et que s'il n'avait pas été remplacé et que le penalty en fin de match sur Bamba avait été accordé, il aurait pu être un quadruple. Ça aurait été un peu historique. C'est dommage de ne pas tenir le score pour Lille. Ça arrive, ça arrive contre Paris déjà il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça, c'est dû à la philosophie offensive de Fonseca. Alors moi, je ne sais pas si je préfère avoir une équipe qui joue offensive tout le match ou une équipe qui joue défensive tout le match. Franchement, même si tu te fais remonter à la dernière minute, ou même contre Paris, contre Lyon, et même contre Paris à domicile quand ils en prennent 7, c'est parce qu'ils attaquent dès le début, sinon jamais ils n'en prennent 7. Moi, je préfère avoir un coach qui joue comme ça plutôt qu'un coach qui met le bus. Quitte à perdre 2-3 points dans la saison, autant jouer comme ça. Mon flop. Alors là, mon flop, c'est un acteur majeur de notre Ligue 1. C'est l'arbitre. L'arbitre de Brest Paris Saint-Germain.
Pour Mbappé.
Qui ne met pas de carton rouge à Mbappé sur une action qui vaut carton rouge et au moins 2 matchs de suspension. Parce que tac par derrière. Alors j'ai vu l'image, sa jambe elle est à moitié pliée. Je pense qu'il aurait pu déboîter le genou. En plus derrière, le joueur de Brest, Belkleblas c'était, il reprend le ballon à la main. Mbappé il est un peu énervé, il lui met un coup de pied. Un coup de pied, pas fort, mais il lui met un coup de pied quand même. Donc un coup de pied, c'est interdit. Je trouve qu'il y a un petit avantage en Ligue 1 sur le joueur du PSG. J'ai l'impression que les arbitres, ils ont peur de mettre des cartons aux joueurs du PSG. De moins en moins vrai, parce qu'au début, quand le PSG est arrivé, il y avait beaucoup d'arbitres qui laissaient pas mal de choses, je trouve. Mais là, franchement, c'est assez dommage parce que ça vient tout changer le match. puisque qui c'est qui marque le but à la 92e minute contre Brest, c'est Mbappé. Ici, après le carton rouge, normalement, il n'aurait pas dû être sur le terrain. Donc, décision assez bizarre. En plus, il y a la VAR. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur s'il y a la VAR. La VAR, c'est magique. Voilà.
Très bien pour ces top-flops de cette journée de Ligue 1. Vous écoutez bien le 12e homme sur Radio Campus tous les mardis soirs.
Face, c'est Paris Rennes. C'est pas Valladolid. C'est le Paris Saint-Germain. Non !
Et on ouvre notre page voyage du jour. On va en Angleterre où Jean nous parle de Liverpool et la fessée qui se sont prises en Ligue des Champions, je crois.
Oui, contre le Real de Madrid. Mais je voulais revenir à une précédente émission qu'on avait faite. Je crois que c'était la première émission où on parlait de Newcastle et de la possibilité d'aller en Ligue des Champions. On avait dit, oui, que ça allait être compliqué parce que les gros allaient se réveiller. On entendait par là Manchester United, Tottenham et Liverpool. Alors c'est vrai, parce que Newcastle aujourd'hui est cinquième, derrière Arsenal, City, Tottenham et Manchester United. Mais derrière, à la sixième place, il y a Liverpool. Une équipe qui m'inquiète, qui a encore plus inquiété lors de leur huitième de finale face au Real de Madrid. En effet, on a vu une équipe muette, surtout en seconde période, et d'énormes largesses défensives. Encore une fois, une défaite face à un petit de première ligue, face au 17e de première ligue. Cette équipe m'inquiète, à l'aube de jouer leur huitième de finale retour au Bernabeu, un match où je ne vois pas comment ils pourraient renverser la tendance au vu de la faiblesse de cette équipe. Trop d'espace laissé aux attaquants adverses et une inefficacité offensive. Mais alors, comment expliquer leur victoire 7-0 contre Manchester United ? Il y a deux semaines, comment peut-on expliquer que le club puisse mettre 7 buts à une équipe aussi en forme en première ligue que Manchester United et ne pas être capable de mettre un but à la pire défense du championnat qui encaisse pratiquement 2 buts par match en moyenne ? Je pense que cette victoire n'était qu'un trompe-l'œil. Anfield plein à craquer, l'envie de ce match très particulier entre les deux équipes a peut-être pris le dessus et les Red Devils se sont effondrés. Je pense que la saison prochaine, Klopp devrait partir pour amener un peu de renouveau et ne pas être dans une sorte de fin de cycle des clubs qui étaient très bons et qui ont du mal à trouver un second souffle. Je pense qu'il faudrait trouver un équilibre entre garder des anciens joueurs comme des joueurs des piliers. Je pense à Van Dijk, Alisson ou Ederson, et amener un peu de fraîcheur offensive aussi, pourquoi pas. Et voilà, mais je pense qu'il faudrait sortir Klopp et amener un petit peu plus de fraîcheur pour l'année prochaine. Voilà.
T'en penses quoi, toi, Thomas, de Liverpool ? Est-ce que ouais, ça serait une bonne idée, par exemple, pour Liverpool d'aller chercher un autre entraîneur, de changer véritablement de cycle, quoi, parce que Klopp a tout gagné. Et ouais. Ce serait temps de partir.
Liverpool, c'est bizarre. C'est une équipe qui est compliquée à expliquer. C'est vrai que le match contre United 7-0, je pense qu'il a très bien expliqué le pourquoi du comment. C'est le derby of England, c'est le match le plus attendu de Liverpool pour Liverpool. Ils ont été surmotivés, United sont passés à côté. Mais sinon, changer d'entraîneur, alors oui, mais pour mettre qui ? C'est ça la question. Ouais. Parce que qui est libre ?
Gattier.
Il y a Zidane qui est libre, mais Zidane, je suis pas sûr que l'Angleterre ça le tente trop. Moi, je pense pas qu'il faut changer d'entraîneur. Je pense qu'il faut laisser Klopp. Je pense qu'il faut changer les joueurs. Je pense que les joueurs sont usés mentalement par le style de jeu de Klopp. Je pense à Salah qui met pas un pied devant l'autre. Moi, je le laisserai partir Salah. Je pense à Firmino qui est plus là depuis 2-3 ans. Je pense à Van Dijk qui est plus là depuis un an et demi. Depuis qu'il s'est fait les croisés, je trouve qu'il est nul. C'est vrai, derrière avant il était très très bon, tu vois, tu te bougeais pas, t'as l'impression que le gars était injouable, mais je sais pourquoi il est moins bon, déjà parce qu'il a baissé de niveau, mais parce que les latéraux Robertson et Alexander Arnold sont de très bons attaquants mais de très très mauvais défenseurs. Et avant, au milieu de terrain, il y avait un mec qui s'appelait Fabinho qui faisait toutes les couvertures sur les latéraux, et qui Fabinho depuis un an et demi il est de moins en moins bon, ce qui vient expliquer qu'il y a beaucoup d'espace sur les côtés, ce qui fait que Van Dijk il est obligé d'aller couvrir l'aile, et à chaque fois t'as Konaté dans l'axe, ou alors Matip ou Gomez, qui se retrouve toujours en 1 contre 1 ou en 1 contre 2 avec l'ailier et le buteur. Donc c'est assez compliqué. Je pense qu'un petit changement de milieu de terrain aussi serait pas mal, parce que Fabinho, on voit clairement qu'il est un peu en baisse.
Il est en dessous.
Thiago, il a jamais vraiment su s'adapter, je trouve, à Liverpool. Il n'a pas été au niveau qui était le sien à Munich, au Bayern. Donc un petit renouvellement d'effectifs. Moi, je pense que Klopp, il a encore l'envie. Ça se voit, il a toujours autant la rage. Je pense qu'il peut encore faire de belles choses avec Liverpool. Donc moi, je garderai Klopp, je changerai beaucoup de joueurs. Parce qu'en plus, ils ont renouvelé quand même en attaque. T'as Núñez qui est arrivé, t'as Gakpo, ouais. T'as Rota.
Enfin, Núñez...
Mais Núñez, je suis sûr que c'est un très bon joueur si tu le mets des joueurs autour de lui. Mais au milieu de terrain, ils ont des jeunes. Ils ont Elliot, ils ont Bajcevic, là, ou je sais plus comment il s'appelle, qui sont pas mal. Je pense qu'Anderson, il faut sortir Anderson.
Ah ouais, mais je trouve...
Anderson, il est bon, mais c'est, ça fait trop longtemps qu'il est là. Pareil, Milner, c'est un bon soldat, c'est un bon guerrier. Mais à un moment, il faut sortir. Voilà, Alisson... On va le garder parce que des bons gardiens, il n'y en a pas beaucoup. Mais Alisson, son jeu au pied, il est horrible.
Que c'est des piliers quand même. Que c'est des mecs qui connaissent le club, qui amènent.
Mais il faut changer les piliers à un moment donné. Une maison, quand il y a des termites qui mangent les bouts de bois dans la maison, on change le bois, on traite. Mais voilà, c'est pareil, on fait pareil à Liverpool. On change la charpente et on remet une nouvelle charpente et on peut faire de belles choses. Moi, je pense qu'il faut changer.
Ouais, parce que quoi qu'il en soit, que ce soit entraîneur ou joueur, il y a quand même une nécessité de second souffle à Liverpool. Ouais. Pour retrouver, parce que quand même, hormis ce 7-0, c'est quand même une équipe globalement en difficulté sur le championnat. Ah oui. Là, qui peut-être est un peu mieux, mais ils étaient 10e il n'y a pas si longtemps
après,
que ça.
Ils peuvent encore accrocher.
Ils enchaînent une bonne série, ils peuvent se retrouver même deuxième, troisième.
Deuxième, peut-être pas, parce qu'il y a City Arsenal. Mais...
Champion.
champion, ouais.
Champion, je pense que le champion, on sait déjà qui ça va être. Mais... Ouais. Arsenal. Ils ont trop de chance. Ça peut pas être une autre
J'espère que ça va être Arsenal quand même. Parce que là, sinon, ce serait. J'espère pas, en tout cas.
Ils ont trop de chance.
On verra bien comment ça se termine en première ligue. Et on attaque un nouveau sujet épineux avec Thomas qui veut nous parler de quelque chose aujourd'hui. Il veut nous parler évidemment du magnifique, du somptueux bilan du PSG ces dernières années en Ligue des Champions.
Ouais. Paris, depuis 12 ans, joue avec des champions tous les ans et ne progresse pas depuis 12 ans. J'ai envie de dire que cette année, c'est la pire saison, je trouve, en Ligue des Champions du PSG. Parce que on l'a vu dès les phases de poule, tu as un tirage plutôt favorable. Tu as Benfica, qui est un très bon club, mais différence de budget, elle est énorme avec le PSG. Normalement, ils doivent les battre. Tu as la Juventus, qui est un club historique, mais qui n'est plus un bon club. Qui est un club lambda maintenant. Tu as le Maccabi Haïfa, qui n'est pas un bon club.
C'est un ogre, ça. Attends.
Qui n'est pas un club historique, qui est un club de football classique, comme il y en a plein dans le monde, que tu dois normalement battre. Ils les ont battus, mais pas avec une assez grande marge. Et en fait, cette année, moi, je l'ai senti dès le début que ça n'allait pas le faire. Parce que d'habitude, le PSG avec des champions, ils font des phases de poule. En fait, Paris, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Ils font des gros matchs en poule, même s'ils sortaient souvent deuxième parce qu'il y avait le Barça ou le Real à chaque fois dans leur poule. Ils n'ont pas beaucoup de chance sur les tirages depuis 12 ans quand même le PSG. C'est un peu le karma de l'argent du Qatar. Donc, ils faisaient des bons matchs en poule et après, hop, ils s'écroulaient. Tu avais par exemple Ibrahimovic qui était un très très bon joueur de phase de poule en Coupe d'Europe, mais qui n'a jamais été bon en élimination directe avec n'importe quel club dans sa carrière. Il n'a jamais marqué énormément de buts. Maintenant, on va parler un peu du match qu'il y a eu mercredi, qui résume très bien tout ça. Ils ont fait quand même... Enfin, je sais pas si on peut dire ça, parce que le match, franchement, j'ai pas trouvé que c'était un match niveau Ligue des Champions. Le Bayern était assez faible, je trouve, en première mi-temps. Le PSG était à un bon niveau, mais c'était pas non plus excellent. Ils ont bien pressé, ils ont bien gêné le Bayern. On a vu la tactique qui reposait sur... Donne-la à Mbappé. On l'a vu, mais alors plein de fois. Et en plus, le pire, c'est que ça aurait pu marcher si les joueurs avaient été intelligents. Parce que donner la balle à Mbappé, ça ouvrait les espaces hallucinants. Ils étaient toujours deux ou trois sur Mbappé. T'avais des espaces, t'avais Fabien Ruiz à l'opposé, qui était tout seul par moment. T'avais Hakimi qui était tout seul par moment. Non, on l'aimait toujours Mbappé. Il aurait dû au moins des fois faire des passes. Parce que les deux actions qu'il a, les deux premières actions, il déborde, il va tirer. Alors que s'il met un centre au deuxième poteau, t'as Hakimi tout seul, je me rappelle, sur la première, ça doit faire un but. On a eu des... Alors là, quelque chose hallucinant. Je trouve que c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est Marquinhos titulaire, qui est à moitié blessé, qui est déjà à 50%. On l'a vu déjà à l'échauffement. Qui se blesse aux côtes. Qui sort du match. Il est remplacé par Mukiele, qui était lui aussi à 50% et qui sort au bout d'un quart d'heure à la mi-temps. Et tu fais rentrer Batshuayi, là, je sais plus comment il s'appelle, Batshibou. C'est ça, ça, franchement, je trouve que pour un club professionnel, c'est une erreur professionnelle qui vaudrait presque un licenciement pour Galtier. Ensuite, on a eu Messi. Messi, en fait, il faut plus être surpris, en fait. Il faut juste l'accepter et dire que c'est plus un joueur de match de haut niveau, qu'il fait une passe ou deux dans le match et que c'est fini. Il se fait bouger sur tous les duels.
Il marche bien, au moins.
Voilà, il marche
bien.
C'est
beau à voir.
Mais oui, c'est beau. Il abîme pas la pelouse.
C'est vrai qu'il marche
Moi,
très
ça fait
bien.
Depuis longtemps que je le dis. Hein. Et ensuite, tu as eu Vitinha. Vitinha qui aurait pu marquer le but du 1-0, qui, à mon avis, aurait changé pas mal de choses, mais qui rate la frappe. Alors, beaucoup vont lui tomber dessus. Moi, je suis très indulgent avec ce qu'il a raté, parce que déjà, il est sur un mauvais pied. Et deuxièmement, chose encore plus importante pour moi, il est déséquilibré par Sommer, qui le tacle et qui le déséquilibre. Et s'il est un peu plus intelligent, il est très jeune, c'est normal, je pense que tu aurais mis n'importe quel autre joueur, genre Mbappé, Danilo ou Fabian Ruiz, il tombe. Parce qu'il le tacle, il le touche un petit peu, il tombe, il y a pénalty, il y a but. Normalement, à 80% sur les pénalty, il y a but. Donc voilà. Et la dernière erreur, l'erreur fatale, j'ai envie de vous dire, c'est Verratti. Qui nous fait une ressortie de balle à la Verratti, c'est-à-dire un petit tourniquet, et puis s'en va. La ballon perdu, pas de faute, bien évidemment. Il aurait pu le remettre à Batshibou qui lui demande la balle en retrait. Il lui fait un 1, il lui propose le 2, il aurait dû le remettre, mais le sortir, comme ça il aurait pu dégager. Mais bon, toujours plus compliqué. Donc le constat pour Paris depuis 12 ans, c'est toujours pareil. Bonne phase de poule et mauvaise élimination directe contre Chelsea. À chaque fois, je me rappelle où ils sont marqués à la dernière minute par Dembaba. Avec Mourinho qui court jusqu'au poteau de corner et tout. City, il y en a eu plusieurs. City, il y a la demi-finale, il y a 2 ans, où ils sont éliminés là-bas dans la neige. Ils n'ont rien fait du match. Ils ont fait un bon match aller, mais le match retour horrible. City de Laurent Blanc, où ils vont jouer là-bas. Laurent Blanc qui met une défense à 3 alors qu'il n'avait jamais joué à 3. On se demande encore pourquoi. United, la défaite avec l'équipe W United. Ça, c'était avec Neymar qui n'était pas là. Contre le Real. Le Real, il y en a eu 2. Il y a eu une qui était indiscutable où ils leur mettent 5-2. Et l'année dernière, qui était un match assez fou. Contre le Barça, il y en a eu 3 ou 4. La remontada, la première année où ils font 1 au match aller, 2-2 au match retour. Ils sont éliminés, 2-2 au match aller, 1 au match retour. Ils sont éliminés sur le but à l'élimination directe. Et l'année où ils leur mettent 5-2, un truc comme ça. En fait, avec Paris, c'est toujours des matchs dingues quand même qu'on a l'élimination directe. Il n'y a jamais un match normal avec Paris, à part cette année. Cette année, c'était logique. On attendait tous qu'ils soient sortis et ils sont fait sortir.
Mais du coup, c'est quoi le problème?
Alors, j'en reviens. Hey, alors, hey. À qui la faute? La faute, elle est à plusieurs personnes. Elle est aux joueurs. Pourquoi? Trop de blessures. Neymar, toujours blessé dans les matchs clés de Ligue des Champions. Avant, on avait des joueurs comme Thiago Silva qui se blessait souvent. Mm. On avait des Marquinhos là, qui étaient blessés. Les gardiens. Il y avait toujours eu quelque chose. Des erreurs techniques. Verratti. Donnarumma. Contre le Real. Qui rate... la relance, il se fait bouger. Il ne doit pas se faire bouger comme ça. Pareil, Kimpembe. Contre United. Avec la main en l'air comme ça pour contrer un tir. Ou Buffon qui capte un ballon, qui la relâche. Lukaku la met dans le même match. Problème mental. Paris, quand ils arrivent à un match de Ligue des Champions... Mais j'ai l'impression qu'ils se font caca culotte. C'est hallucinant. Surtout contre, je me rappelle du match contre le Barça, la remontada, mais en 10 minutes, en 15 minutes, il y a déjà 3-0 pour le Barça. C'est un truc de fou. Il y a aussi une certaine arrogance, je trouve, du PSG. Ils sont là, se dire on est les meilleurs, on va gagner. Moi, je me rappelle d'un truc très impressionnant, c'était quand même le dîner entre les joueurs du PSG
en train de me dire.
Avant le match contre le Barça. Où ils disent, 4-0 quand même, t'imagines, c'est la honte, on peut pas perdre 4-0. Là, franchement, c'est encore plus la honte. Il y a un problème physique. Parce qu'on voit qu'ils ne sont pas prêts à jouer contre des équipes qui courent. D'ailleurs, le PSG, c'est l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions, quand même. Mais en championnat, ça se voit direct. Quand ils jouent contre des équipes qui mettent de l'intensité, ils sont mangés. Ensuite, faute des coachs. Des choix tactiques absurdes. Laurent Blanc contre City, qui joue à 3, j'ai dit tout à l'heure. Tourelle, qui a été bon pendant 6 mois. Et après, il a commencé à faire n'importe quoi. Marquinhos au milieu de terrain. Pochettino pareil qui met Verratti en numéro 10. Il y a eu vraiment des choix bizarres, mais Tourelle, quand il est parti du club d'ailleurs, il a dit à Paris, en fait on fait pas du coaching, on fait de la politique. Ça révèle bien l'esprit du club. La faute des journalistes aussi, parce que je trouve que on est trop indulgent avec l'équipe. De moins en moins, mais au début, quand c'était Paris qui jouait, oh Paris, attention, faut pas trop critiquer, machin. Je me rappelle, chaque année, on nous disait, cette année, c'est la bonne pour Paris, ils vont la gagner. Non, non, toujours pas. La faute des directeurs sportifs. Leonardo, qui met une tarte à je sais plus qui dans un couloir de vestiaire et qui se fait virer, qui revient, qui met des coups de pression avec des méthodes très, très, on va dire, pas très honnêtes, très instables. Enrique, qui fait quand même venir Neymar, qui est le plus gros transfert du club, qui joue moins de 50% des matchs, qui préfère aller jouer au poker, qui se blesse, qui va au carnaval à Rio pour voir sa sœur, qui fait venir des mecs du Brésil, bref, qui était aussi soumis à Nasser. On va en parler après de Nasser, parce que Nasser, je pense que c'est lui qui a 90% de la responsabilité. Campos, cette année, qui arrive avec Galtier, avec des choix d'effectifs plus que bizarres. Paredes qui s'en va, ok. Draxler qui s'en va, ok. Qui d'autre qui s'en va?
Di Maria.
Di Maria, je voulais en parler. Icardi qui s'en va. Et Di Maria qui s'en va. Ça, c'est cette année. Après, il y a eu plein de joueurs. Sarabia aussi qui est parti. Donc, qui était remplacé par qui? Vitinha, ok. Pourquoi pas. Fabian Ruiz, pourquoi pas. Soler, non. Alors, Ekitike. 40 millions, je crois, ou 20 millions, un truc comme ça.
Mais ça c'est une des pires histoires. Parce que tu vends Kalimundo pour acheter Ekitike deux fois plus cher. Hein.
Et avec un salaire de sénateur. Quoi. Enfin, sénateur, ils ont plus de salaire que ça, mais un salaire hallucinant. Moi, je pense que ce joueur-là, s'il part pas du PSG...
Ils ne pourront jamais le revendre. Il a quoi? Il a un contrat de 5 ans.
Sa carrière, elle est ruinée.
Oui, jamais. Même pour sa carrière.
Sa carrière, elle est ruinée. D'ailleurs, le PSG, c'est le plus gros club qui détruit des carrières, j'ai l'impression. Parce que Sarabia... Très bon au Sporting l'année dernière, quand il est prêté, il revient, il est mauvais d'ailleurs, il part directement à Wolverhampton. Draxler, c'était un très très bon joueur. Là, il est prêté à Benfica, il joue pas. Paredes, bon, là, il joue en Russie, donc c'est compliqué, mais on l'a vu à la Coupe du Monde, c'est quand même un bon soldat. En plus, Draxler, Paredes, ils vont revenir parce qu'ils sont prêtés. Donc qu'est-ce qu'on en fait après quand ils vont revenir?
Surtout que c'est eux qui veulent pas partir pour pas baisser leur salaire aussi. Voilà. C'est toujours pareil.
Bah, en même temps, quand les mecs qui négocient, ils donnent des salaires à je sais pas combien de millions, quand tu leur dis un an plus tard, on va baisser de 50% ton salaire, non, ça marche pas comme ça. De toute façon, l'effectif est de moins en moins bon. Chaque année que ça avance, ouais. T'avais Mota, Matuidi, Verratti au milieu de terrain, hein, tu te retrouves avec Verratti, Fabian Ruiz, Soler. Tu vois, le milieu de terrain, il est génial. Alors maintenant, la faute, elle est au président aussi. Nasser, moi je le surnomme Nasser à rien. C'est un peu le il est là, on dirait qu'il est à Disneyland, tu sais. Il chouchoute les joueurs comme ça. Il y a même des joueurs, apparemment, j'ai entendu ça la dernière fois à la radio, qui ont leur numéro personnel. C'est-à-dire qu'en fait, t'appelles Nasser, tu dis, moi, demain, j'ai pas envie de jouer parce que j'ai envie d'être resté avec mon enfant. Du coup, je vais pas venir. Ok, pas de problème. Moi, j'ai envie de jouer parce que l'entraîneur, il me fait pas jouer. Là, c'est pas bien, faut que je joue. Ok, pas de problème. Ok. Il a trop d'influence. J'ai l'impression que c'est lui qui fait l'équipe. Il protège pas les coachs. Moi, je me rappelle de l'épisode Blanc-Aurier, quand Aurier traite de Laurent Blanc de fiotte. Mais Aurier, jamais il doit rejouer au club. C'est fou qu'il ait pu rejouer quand même, ça, c'est hallucinant. Pareil, il est jamais là au club, il a tellement d'activités. Il s'occupe du tennis, il s'occupe de je sais pas combien d'entreprises. Autour de lui, il a une cour un peu d'influence là. Des gens qui lui disent alors toi tu vas faire ça, moi je me mets là, machin, bidule. Ça c'est fou. Bref, moi je dis Nasser dehors. Le problème du PSG, en fait, c'est que c'est pas un club de foot. C'est un outil du soft power du Qatar. Côté marketing, bah c'est réussi. Bah, ouais, franchement,
ça génère.
C'est magnifique. Mais le sportif, c'est plus que pourri. Le club, c'est un peu le club vitrine de la Ligue 1. C'est assez dommage d'ailleurs que ce soit ça comme club vitrine de Ligue 1. Alors quoi changer? Les joueurs, il y en a beaucoup qui sont usés. Des Marquinhos. Marquinhos, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Verratti, il y a beaucoup de joueurs à sortir. Des joueurs qui crachent sur le club depuis qu'ils sont arrivés. Je pense à Neymar. Qui c'est, franchement, moi je serais supporter du PSG, je peux pas. Messi, pareil, des joueurs qui crachent sur l'institution, c'est assez fou. Ils vont même pas saluer. T'imagines que t'es joueur d'un club, tu vas même pas saluer tes supporters à domicile. Ça, je trouve ça inacceptable. Les coachs, on peut les changer, mais si on change pas le président, ça va rien changer. Parce que tu sors Ancelotti, coach du PSG, viré, il gagne les champions avec le Real. Laurent Blanc, bon, viré. Mais je pense que ça a été le meilleur PSG, c'était sous Laurent Blanc. Ensuite,
Emery.
Ligue Europa. Viré, Ligue Europa. Tourelle, viré, Ligue des Champions. Pochettino, viré. Bon, il n'a pas de club, mais bon. Pochettino, c'est toujours un très bon... Avec Tottenham, il fait finale avec des champions quand même. Hein. Faut l'oublier. Donc voilà. Ensuite, il faut changer l'approche des médias sur le club. Il y a trop d'indulgence de certains médias, je pense à Canal+, ils sont vraiment trop... je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot poli, j'allais dire, ils sont trop en train de les sucer, quoi. C'est un truc de fou.
Censuré.
Il faut changer le président et la direction. Il faut un vrai président, là. Il faut arrêter d'avoir un fan qui se croit à Disneyland, qui achète tous les joueurs qui lui paraissent bling-bling. Et pourquoi pas le propriétaire aussi changer ? Est-ce que le Qatar ne doit pas s'en aller du PSG pour le bien du football français ? Est-ce qu'ils n'ont pas échoué, finalement, leur mission secondaire, c'est-à-dire quand même de faire un club de foot ? Moi, je préfère un PSG normal, un PSG taille Ligue 1, plutôt qu'un PSG taille extra-européen, mondial, et avoir un PSG qui au moins des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui respectent l'institution, un club qui se donne en Ligue des Champions et qui fait des exploits. D'ailleurs, le Qatar réfléchit peut-être à partir avec United.
Ils peuvent avoir les deux, ils ont cet argent.
Alors, moi, je pense que c'est impossible d'avoir le PSG et United, de les garder les deux au même niveau où t'es.
Ah, oui.
Parce
mais
que
moi,
t'es obligé que tu vas privilégier un club, et United, à mon avis, va être privilégié. Comment United, c'est 10 fois, 1000 fois l'histoire du PSG. T'es obligé de privilégier United. Ouais. Donc, voilà le bilan du PSG depuis 12 ans, qui aurait déjà dû être fait, qui a déjà été fait par certaines personnes, et qui aurait surtout être déjà dû appliquer.
Est-ce que t'as quelque chose à dire, Jean, parmi toutes ces... toute cette mine d'informations.
Le gros problème du PSG, c'est que c'est pas un club. C'est pas un club. Le Bayern, c'est un club, parce que les histoires de Neymar et tout comme ça, il y en a aucune au Bayern, il y en a aucune au Real.
D'ailleurs, il se cassait la poigne, la jambe.
Oui, mais ça, on n'en fait pas une affaire d'État. Voilà, c'était pas un truc où. Non, mais enfin, Neymar, ça arrive tous les ans. Ça arrive tout le temps.
Tous les ans, oui.
C'est là, cette histoire de poker, c'est histoire d'aller à l'anniversaire de sa sœur. Enfin, c'est tous les hivers, tous les trucs, il y a un truc comme ça. Messi, il faut qu'il parte. Messi, il y en a marre, là. Messi, j'en ai marre. Enfin,
qu'il aille jouer en Arabie Saoudite contre Ronaldo.
Inter Miami, c'est bon. Vas-y, il fait son truc. Il a été très bon, il est très très fort, voilà. Mais qu'on arrête. Et moi, je pense qu'il faudrait ramener des mecs de... d'Île-de-France.
Mais oui, il faut faire l'équipe All-Star Île-de-France.
Mais pourquoi on va chercher des mecs de Russie, tout. T'as vu, là, j'ai regardé. T'as Konaté de l'équipe d'Île-de-France. Youssouf Fofana, que je trouve très bon à Monaco, qui est en équipe de France. Upamecano. Pourquoi on ne privilégie pas ces joueurs-là qui ont quand même une attache à ce club, une attache à leur ville, et qui vont enfin mouiller un peu le maillot, que des mecs comme Carlos Soler qui en a rien à faire, et Kitike, je sais plus d'où il est, je crois qu'il est pareil, je sais plus.
J'en sais rien du tout.
Mais Kitike, enfin, il sert à rien, quoi. Enfin, il amène pas de folie. Moi, je pense que
il coupe les oranges à la mi-temps.
Celui qui a amené un peu moi, sur le match, qui a amené un peu de vivacité, qui en voulait quand même, c'est Zaïre Emery. Oui, il a 16 ans, mais il a amené, moi je vois une action où il prend le ballon tout seul, il va sonner un peu la révolte, même à 2-0, parce qu'il il a ce club, parce qu'il aime ce club. Aujourd'hui, on a des joueurs qui n'aiment pas ce club, et au Bayern ou au Real, enfin, je prends ces équipes-là parce que c'est des grosses équipes et c'est des vraies institutions, pourquoi ils arrivent là, ils sont très heureux de jouer pour le PSG, ils ont ce maillot, ils ont l'honneur de jouer pour ce maillot, et ils donnent tout. Quand on voit Benzema qui donne tout, mince, j'ai oublié son prénom, mais Camavinga qui lui amène, qui se bouge quand même, j'ai vu au match face à Liverpool, il donne tout pour le maillot. Au PSG, il y a pas ça. Au PSG, il y a pas ça. Donc, je pense que le PSG pourra faire un grand truc quand ils seront vraiment un club. Et donc là, il faut sortir
Qatar.
Il faut sortir le Qatar. Il faut sortir le Qatar. Il faut sortir El Nasser. Il sert à rien parce que il sert à rien. Lui, c'est le tennis. Lui, ouais. Il aime le tennis à la base. Enfin, je trouve ça triste pour la France parce que c'est notre club. C'est le club qui représente la France en Coupe d'Europe à chaque fois. Et je trouve ça triste qu'on ait des mecs voilà qu'on soit pris par le Qatar par tout cet argent là et voilà qu'on n'ait pas un club avec de l'histoire qui montre ce qu'ils ont pour l'Europe. Voilà. Moi, c'est plutôt de la tristesse quand même de se faire tout le temps éliminer à chaque fois, d'être les cons à chaque fois qu'ils font des histoires n'importe où. Enfin voilà, qui gagne 3-0, qui partent 4-0 au retour, voilà, c'est chiant. Enfin c'est voilà, c'est pénible, il y en a marre. Et moi je pense qu'il faut ramener des mecs de France qui ont une vraie envie de jouer, de porter le maillot parisien.
Quoi. Des joueurs de foot quoi.
Ouais, mais des gens, ils disaient des banlieusards quoi, des mecs qui
après
qui donnent, qui,
après il y a beaucoup d'équipes arrachées quoi.
Ces mecs-là bientôt ils voudront même plus y aller.
Mais
parce
oui,
qu'aujourd'hui,
parce
t'es,
déjà
aujourd'hui t'es joueur de foot pour ta carrière, un mec ou pas Mécano Konaté, mais jamais, jamais ils veulent y aller. Hein. Bah déjà, moi, je pense qu'on leur propose, ils ne veulent pas y aller.
Bah, quand t'es au Bayern et Liverpool, pourquoi tu vas aller au PSG?
Oui, voilà. Je pense quand t'es un joueur de Bayern, quand tu connais cette exigence qu'il y a à Munich ou qu'il y a à Liverpool et tout, tu arrives à Paris, c'est la colo, quoi, c'est la colonie. Enfin, c'est des mecs. Non, mais c'est vrai, c'est lamentable. Enfin, c'est
le dernier grand joueur qui a été à Paris, qui était un peu dans la mentalité, c'est Ibrahimovic, quoi. C'est
oui,
lui,
c'est Ibrahimovic.
Lui qui a professionnalisé le club presque.
Ouais, mais pareil, il avait un globe, c'était
non, incroyable. C'est un personnage, c'est un très très, oui, c'est un très, très bonne personne, Ibrahimovic.
Tu connais hein,
oui, je connais, j'ai lu des livres sur lui.
Je le connais personnellement.
Non,
c'est
quelqu'un
ouais.
Très très bien.
Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, pour conclure, c'est que je pense que ça continuera à faire couler beaucoup d'encre, le PSG, dans ces prochaines années, Qatar ou non. Parce que si le Qatar s'en va, comme vous l'avez dit, il y aura quand même une immense transition, ça va faire parler. De toute façon, le PSG, ouais,
le PSG
continuera
oui.
À faire parler.
Et puis sur le journalisme aussi, moi je pense qu'il y a une très grosse attente et que moi je pense que les journalistes font l'effet inverse d'être tout le temps sur le PSG, de tout le temps relayer toutes les histoires, tous les trucs, et qui nuisent aussi un peu à la vie de Paris, je trouve.
Oui, il faut. Comme... En Angleterre, t'as ça.
Oui, en Angleterre.
T'empêche pas les clubs d'être bons. Hein.
Non, pareil. Non, mais je trouve que comme il n'y a que ce club, ils sont tout le temps sur ce club. On voit, ils font la une toutes les semaines, le PSG. Bah. Voilà.
Tous les trois jours, plutôt.
Tous les trois jours, oui, je veux dire, c'est tous les jours maintenant. Mais... Bon, voilà, c'est pénible. Quoi. Ouais. Ouais.
Le PSG fait couler beaucoup d'encre et le Qatar fait couler beaucoup de sang avec les fans à la Coupe du Monde.
Une petite métaphore.
Bon, si on parlait d'un club vachement plus chouette, le Pau FC. Genre le Pau FC.
Un club avec moins d'argent, plus tranquille, moins d'histoire, mais bon, qui gagne pas non plus énormément. C'est peut-être ce qu'on leur reproche. Mais ça y est, le match face à Niort le week-end dernier était capital. Niort était dernier, c'était l'occasion de prendre un peu d'avance sur un concurrent direct pour le maintien, un peu les faire couler, voilà. De plus, Pau était sur 5 matchs sans victoire. Il y avait eu une forte communication sur ce match, j'avais vu beaucoup d'affiches et tout ça pour... Voilà, c'était la guerre, il voulait faire la guerre. Le résultat, il y est, 1-0, plus que le jeu, parfois, sûrement. C'est un peu le cas de pas mal de matchs du Pau FC. On veut, là, il faut la victoire. Il fallait les 3 points. Et il y a un autre match hyper important la semaine prochaine contre Dijon, qui est pareil, qui est, je crois, 18e ouais. De Ligue 2. Voilà, il y a deux points d'avance sur Rodez. Et si un coup, si Pau arrive à avoir un résultat à Dijon, ça va être, c'est très bon pour le maintien. Enfin, ils ne seront pas maintenus, mais en tout cas, ils se donnent un peu d'air. Et surtout qu'ils sont, ils vont avoir 3 matchs et c'est 3 concurrents pour la Ligue 1. C'est Le Havre, Metz, 2 réceptions et après un déplacement à Sochaux qui eux aussi se battent pour la montée. Donc eux, ils vont vouloir prendre des points chez Pau, à Pau. Donc voilà, pas facile pour le PFC, Pau FC. Et le match à Dijon la semaine prochaine va être capital. Mais on a quand même envie de terminer ce point sur la magnifique victoire des U18 du Pau FC en Coupe Gambardella. Les Palois ont battu l'Olympique Lyonnais, c'est quand même la grosse équipe de cette Coupe Gambardella. On souligne toujours le centre de formation de l'Olympique Lyonnais qui est le meilleur en France. Et ils l'ont gagné surtout l'année dernière. Ils ont gagné au tir au but après avoir été menés 1-0 pendant un bon moment du match. Égalisation un peu bizarre, mais bon, il y a but. Et surtout un pénalty à 80 dans le temps additionnel pour Lyon. Et arrêté par le gardien. Je voulais chercher son nom, j'ai plus son nom. Je vois tout le temps sur TikTok. il a arrêté, c'est incroyable ce gardien. Il arrête le pénalty dans le bout du temps additionnel. Et il arrête 2 pénaltys au tir au but. Il les envoie en demi-finale. Ils sont à 2 matchs du Stade de France. Le prochain, ça sera un match du Stade de France, 2 matchs de la Coupe. Et donc le prochain match, ça sera à Clermont contre le Clermont Foot. Et les autres, c'est Monaco-Rennes.
Ils ont eu de la chance sur le tirage, alors.
Oui, ils ont eu de la chance sur le tirage. Mais voilà, il en faut un peu de chance pour être champion.
Ah bah oui.
Allez, le Pau FC, ça sera le 6 avril. Non, le 9 avril. Le 9 avril à Clermont. On espère un PFC au Stade de France.
C'est très drôle d'avoir le PFC en finale de
La Coupe Lombardella.
Puis ils jouent bien, ils se donnent vraiment, il y a vraiment du cœur. Je sais, j'ai plus les noms.
De toute façon, c'est déjà historique.
Plus leur arriver d'ici tôt, à mon avis, il faut qu'ils profitent.
Hein. Ouais, c'est ça, donc ils ont rien à perdre.
Trois du PFC aussi, le défenseur, je crois, qui a fait un énorme match. Numéro 10 aussi.
L'équipe entière a fait un gros match.
Ouais, porté par des bonnes individualités qui les amènent, et ce gardien aussi qui les a beaucoup rassurés. Voilà, bravo au PFC quand même.
Voilà, bravo au PFC, et c'est déjà la fin de cette émission très animée, grâce au PSG. Donc on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas ce week-end, l'affiche du week-end en Ligue 1, c'est PSG-Rennes. Donc match...
Intéressant.
Malheureusement, les deux équipes sont pas très en forme.
Ouais, là aussi Rennes.
Deux équipes pas trop en forme, mais c'était le match le plus intéressant du week-end.
Il y a Toulouse-Lille. Il y a Toulouse-Lille.
Si.
Il y a aussi Nice-Lorient.
Oh. Sympa.
Bon, ouais. À la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine.